Donc, pour cette veillée en deux temps, pour le premier temps, nous sommes très heureux d'écouter Anne Simonet. Anne Simonet, qui est membre de Notre-Dame de Ville, à y consacrer, qui est professeure de littérature française au lycée de la Trinité à Béziers. Anne Simonet aussi a travaillé et continue à travailler notamment sur le poète Pierre Emmanuel. Elle a publié dans la collection du Centre du Studium un livre sur Pierre Emmanuel, poète du Samedi Saint. Si vous allez sur Internet, vous verrez le site dédié à Pierre Emmanuel
Anime presque
qu'elle anime et qu'elle
exclusivement.
fait sur lequel elle doit faire à peu près tout, je pense, parce qu'en général, c'est comme ça que ça se passe quand il y a une bonne volonté. Elle est obligée de tout faire, les photos, les textes, les contenus et la mise en forme. Voilà. Et puis, elle est aussi membre du Centre de recherche Pierre-Emmanuel. Alors, malheureusement, nous ne pourrons pas faire de questions après, puisque
Malheureusement.
nous allons aller prier. Et puis, malheureusement, nous ne pourrons pas continuer à échanger avec Anne demain, parce qu'elle doit repartir dès demain, à cause de son travail de professeur de lettres. Voilà, donc c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Nous sommes déjà très très heureux qu'elle ait fait cette folie d'arriver de Béziers ce soir exprès pour nous partager donc quelques aspects de la manière dont le Père Marie-Eugène appelle une activité de notre imagination, tout spécialement dans ses homélies. Je lui laisse la parole.
Merci, Papier. Le familier du Carmel considère souvent l'imagination comme la folle du logis, dont se plaint Thérèse d'Avila, contre laquelle mettent en garde les saints. Pas exactement la puissance trompeuse de Pascal, qui confond vérité et mensonge, mais au moins une capacité de distraction gênante dans la prière. Pour un littéraire, au contraire, l'imagination serait plutôt, comme le dit Baudelaire, la reine des facultés. La nature n'est qu'un dictionnaire, affirme-t-il en reprenant Delacroix, et le rôle de l'artiste consiste à faire des phrases qui en montrent la beauté, en déchiffrent le sens. Et Baudelaire écrit, elle a créé l'analogie et la métaphore, elle décompose toute la création. Et avec les matériaux amassés et disposés suivant des règles dont on ne peut trouver l'origine que dans le plus profond de l'âme, elle crée un monde nouveau, elle produit la sensation du neuf. Les saints du Carmel, eux-mêmes d'ailleurs, en usent ainsi. Thérèse d'Avila explique les modes de l'oraison par les manières d'arroser son jardin, la vie de l'âme par un château intérieur. Jean de la Croix parcourt les sentiers de la montagne du Carmel, chante la nuit obscure ou la vive flamme. Leur imagination est au service de leur expérience de Dieu. Que dit le dictionnaire? L'imagination est la faculté que possède l'esprit de se représenter ou de former des images, en particulier la capacité de se représenter ce qui est immatériel ou abstrait. Elle est aussi la faculté d'évoquer les images d'objets déjà perçus, de se représenter le passé sous une forme analogue à la sensation. C'est ce qu'on appelle l'imagination reproductrice. Elle est enfin la faculté de former, de créer des images d'objets non perçus ou d'objets irréels, de faire des combinaisons nouvelles d'images, et on parle à ce moment-là d'imagination créatrice. Dans Je veux voir Dieu, l'imagination est essentiellement associée à l'entendement et à la mémoire, donc aux deux premières acceptions. La troisième est plutôt évoquée à propos de ses pathologies, ce qui est gênant pour le littéraire. Marquée par le péché, l'imagination n'est une aide que très ponctuelle et peu fiable, souvent un obstacle. Dieu, pourtant, l'utilise dans les visions extraordinaires, et dans le chapitre sur le Christ Jésus, l'auteur recommande, puisque c'est comme homme-Dieu que Jésus exerce sa médiation, c'est vers la sainte humanité que se portera la curiosité affectueuse de l'amour sur les perfections de son corps, sa beauté, sa sensibilité, sur les richesses de son âme, la triple science intuitive, infuse et expérimentale qui ornait son intelligence, sur la vie débordante à la fois et ordonnée de son imagination et de ses sens, sur la force et la maîtrise admirable de sa volonté, l'équilibre harmonieux et la haute perfection de son être et de sa vie, enfin sur tout son entourage et son pays, sur les conditions matérielles et morales dans lesquelles s'est déroulée son existence ici-bas et qui ont préparé, par la souffrance et la mort, son triomphe définitif. Ainsi fait le Père dans son enseignement oral, orientant son imagination et celle des fidèles vers une découverte toujours plus profonde du Christ Jésus et de ses mystères, en particulier dans ses homélies, dont le genre littéraire vise à déployer des lectures bibliques au langage très imagé et impose d'attirer l'attention des fidèles. La plupart de celles dont nous disposons furent prononcées durant la messe de communauté et s'adressaient donc aux membres de l'Institut Notre-Dame des Vies. Environ 500 homélies sont conservées de 1927 à 1966. Évidemment, leur nombre est très variable d'une année sur l'autre, puisqu'elles dépendent de la présence du Père dans le sanctuaire. Il y en a moins de 10 par an jusqu'en 1956, sauf en 1952. Il y en a jusqu'à 64 en 1962. La chapelle n'étant pas une église paroissiale, le Père tient peu compte des fidèles de la région qui les rejoignait, sauf lors des pèlerinages, les vêpres du 15 août pour la région, la fête de l'Ascension pour les élèves de l'Immaculée Conception de Carpentras. Les évangiles du dimanche ou des fêtes étaient identiques d'une année sur l'autre. Il est donc possible d'en comparer les différents commentaires. Habituellement, le Père commente l'Évangile, l'Épître, plus souvent encore les nocturnes, bibliques ou patristiques, sont cités pour l'éclairer. L'Ancien Testament paraît peu, en dehors de la Genèse, essentiellement la création du monde, la faute, la geste d'Abraham, l'Exode, le Livre des Rois, la geste d'Élie, ou du Psaume, qui est alors réduit à 2 versets. Le Père cherche le caractère de Jésus, parole de Dieu, centre et orient de son commentaire. Ainsi, lorsqu'il relève le psaume dans lequel Jésus dit sa souffrance, « Quid derile quisti me », il en fait le commentaire suivant, le 4 avril 1958, « Le Christ Jésus va-t-il tomber dans le désespoir ?»« Quid derile quisti me », voilà l'état de son âme. C'est un psaume qu'il récite. Il a soif. Sitio. Oh, comme sont longues ses heures. Sa poitrine est oppressée, ses muscles tirés, ses nerfs doivent se tordre. Son corps semble avoir perdu sa forme humaine. Attaché par les mains, par les pieds, il retombe de son propre poids et les plaies s'élargissent. Le tableau est rendu vivant par les présents. Ils retombent, s'élargissent, par les mouvements, tirés, se tordre. Nous sommes invités à entrer dans la contemplation du Christ en nous représentant avec lui chacune des souffrances de Jésus en croix. L'imagination est donc ici au service du réalisme de la passion, vécue au présent. Si le Père en dit plus que le texte évangélique, c'est qu'il l'associe au psaume 21 initié par Jésus. « Ils ont percé mes mains et mes pieds, ils ont compté tous mes os. » Psaume lu à l'office des matines, au premier nocturne, cette nuit-là. Le prédicateur n'hésite pas pourtant à le traduire de manière libre et sans s'y référer explicitement. Il utilise la troisième personne et non la première, le verbe « attaché » et non « percé », note ensuite le poids du corps et non les os. Il s'agit bien de présenter aux fidèles un tableau grâce auquel ils puissent regarder Jésus dans sa crucifixion. Les ajouts au texte biblique se retrouvent sous d'autres formes. Ainsi, l'homélie du 30 mai 1965, durant la neuvaine de Pentecôte, s'ouvre ainsi. Il semble bien que par ce psaume d'entrée, la Sainte Église, aujourd'hui, nous invite à entrer nous aussi au Cénacle. Les apôtres, en effet, avertis par les anges qui étaient descendus, qui leur avaient rappelé la promesse de notre Seigneur, étaient entrés au Cénacle avec d'autres disciples. La Vierge est là, des saintes femmes, sous la direction morale de la Sainte Vierge. Ils s'étaient mis en prière, prière de supplication, d'attente, avec un peu d'angoisse que nous sentons dans le verset du psaume « Écoute le cri de ma prière, je cherche ta face, Seigneur. » Le verbe de mouvement « entrer » suppose un acte premier de l'imagination. Il est confirmé par la présence d'un véritable tableau après avoir résumé les événements du début des actes. On voit le mouvement des anges, les personnages en présence. Ici encore, le présent historique qui rend la scène actuelle. La Vierge est là. Et le Père n'hésite pas à donner davantage de précision que les actes. Ainsi parle-t-il de la direction morale de la Sainte Vierge ou de l'angoisse de la petite communauté qu'il lit dans le psaume proposé par l'Église ce jour-là, mais qui n'apparaît nullement dans le texte des actes, lequel dit simplement « Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. » Le texte ne précise en rien leurs sentiments ou leurs impressions d'alors. En revanche, l'imagination n'est guère sollicitée ici quant au cadre spatio-temporel. Le nom « Cénacle » indique seul où se trouvent les participants. Mais ce nom est lourd d'évocation et fait donc appel non seulement à la mémoire, mais aussi à l'imagination des auditeurs. Commentant Luc 2, 15-20, lu à la deuxième messe du jour de Noël, le prédicateur imagine les impressions des bergers et leur réaction, très humaine, fraternelle en quelque sorte. Et voici ce qu'il dit. Ils ont dû être effrayés par la pauvreté de la crèche, par la pauvreté de Saint Joseph et de la Sainte Vierge. Eux qui connaissaient évidemment la pauvreté, la souffrance et les besoins de la misère, durent laisser à la crèche, à la Vierge Marie et à Saint Joseph, ce qu'ils avaient comme provision, peut-être comme vêtements pour l'enfant Jésus. Et il imagine ensuite leur départ, incitant à les suivre de vue. Lorsque les bergers furent repartis vers leur travail, la garde des troupeaux dans la campagne, et puis ils regardent à nouveau à l'intérieur de l'étable. Marie et Joseph se retrouvèrent seuls auprès de Jésus, dans le silence de l'étable et de la campagne, sous les premiers rayons de soleil qui venaient éclairer la scène. Le tableau est presque poétique et il est là pour introduire les réactions. Ils durent alors, donc c'est Marie et Joseph, ils durent alors prendre cruellement conscience des choses. Ils durent être accablés par tout cela. Ils se demandaient ce qui leur arrivait. Leurs facultés éblouies reprenaient, pour ainsi dire, conscience d'elles-mêmes. Et ce n'est pas le doute qui arrivait dans ces facultés. Cependant, ils devaient bien se dire, est-ce que nous avons rêvé? Non, non, nous n'avons pas rêvé, Jésus est là. C'est le 25 décembre 1959. Rien ne nous est dit de tout cela, évidemment, dans l'Évangile. Ni le doute, ni l'accablement, ni bien évidemment les discours directs en un langage familier qui nous rend présent une fois encore la scène évoquée. C'est la même liberté qui lui fait interpréter Jean 21, 20, 23 de manière originale. Avant de partir et de monter au ciel, notre Seigneur se tourne vers Saint-Pierre et lui dit « Tu me suivras ». Saint-Pierre semble comme gêné de partir tout seul ainsi à la suite du maître. Il se tourne vers Jean et dit à notre Seigneur, « Et celui-ci, que voulez-vous en faire? Qu'en sera-t-il de celui-ci? » Et celui-ci, c'est Jean. Vous le voyez, la parole de Saint-Pierre montre la place qu'occupe Jean. C'est toujours le père Marie-Eugène qui parle. Pierre a comme peur de partir tout seul. Et il dit donc, celui-ci aussi a droit à quelques prophéties particulières, à un soin particulier du maître. C'est alors que notre Seigneur répond, après tout, si je veux qu'il reste, que t'importe? Les quelques changements introduits dans les propos de Pierre, que voulez-vous en faire, ou de Jésus, après tout, renforcent les sentiments imaginés chez l'apôtre et dont l'Évangile ne dit rien, la gêne et la peur de partir tout seul. Il arrive au prédicateur de développer encore davantage une scène en imaginant les pensées et les propos de Jésus. Ainsi, lorsqu'il commente le « il leur était soumis », Luc 2, 52. Alors voici ce qu'il dit le 19 janvier 1960. Il faisait ce qu'il lui disait, même si quelque chose lui paraissait meilleur, même s'il saisissait telle ou telle déficience qu'il aurait pu corriger aisément, car Joseph et Marie ne voyaient pas tout, ils marchaient comme à tâtons. Ils étaient éclairés par Dieu suffisamment, mais notre Seigneur aurait pu leur dire « Ce chemin est plus droit, vous n'y voyez pas clair, laissez-moi vous éclairer ». D'autres fois, il développe les propos du Christ en les insérant dans leur contexte. Il commente ainsi Jean 10, 11, 16. Notre Seigneur a voulu nous dire, il y a cette familiarité entre vous et moi. Je vous connais, vous me connaissez, par conséquent, mon regard se porte sur vous. Non seulement mon regard se porte sur vous, mais je vous soigne, je connais vos sollicitudes. Voici la brebis blessée, et le pasteur arrive pour soigner sa chère brebis qui s'est égarée dans les fourrés, qui s'est accrochée aux épines. Le bon pasteur va la tirer, enlève les épines, la prend dans ses bras et la ramène. Le petit agneau perdu, il le prend dans ses bras et le porte au troupeau. Et nous voyons l'agneau joyeux sautant au milieu du troupeau qu'il est heureux de retrouver, se mêlant à lui. L'évangile de Jean est ici éclairé par Ézéchiel 34 et par l'évangile de Luc 15, 3, 6. L'accent en est pourtant un peu différent. Il note un traitement adapté pour la brebis et pour l'agneau. Il ajoute des précisions, les épines. Et puis surtout, au lieu de s'attarder à la fin sur la joie du pasteur, le Père relève celle de l'agneau. Joyeux, sautant, heureux, non pas tellement d'être retrouvé par le pasteur, mais d'être à nouveau au milieu du troupeau. La vivacité du récit, sa précision, manifeste l'imagination du prédicateur et suscite celle des fidèles qui entrent ainsi dans le texte évangélique comme de plein pied. L'aisance et la liberté avec laquelle le Père lit les textes transparaissent souvent. Citons seulement une homélie du jour de l'Annonciation, dans laquelle se rejoignent en quelques lignes la création, Genèse 1 et 2, le péché, Genèse 3, et Jean 1, 14, pour éclairer l'évangile de Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. C'est le 25 mars 1958. Le bon Dieu décide de venir lui-même. La grâce, les dons préternaturels n'ont pas suffi à l'homme. Eh bien, je vais y aller moi-même. Je vais me faire homme. Le bon Dieu s'anéantit lui-même. Lui, l'infini, qui a toutes les perfections. Lui qui n'a ni commencement ni fin. Voyez ces pauvres gens, dit Dieu, qui n'ont pas pu réaliser mon dessein. Alors, moi-même, je vais y aller. Outre le discours direct, le Père n'hésite pas à recourir aux comparaisons, parfois poétiques, pour faire entrer son auditoire dans l'atmosphère du texte biblique. Il commente ainsi Matthieu 2, 21-23, le 7 janvier 1962. Donc il s'agit de Joseph et de Marie. Ils vont à Nazareth, où il s'agit de vivre la vie ordinaire, de s'enfoncer dans le mystère, dans l'obscurité, comme ce voyageur qui, le soir, quitte la maison éclairée. Après avoir ouvert la porte, il sort dans la nuit pour entreprendre son voyage, sous la pluie, sous la tempête peut-être. C'est dans ces conditions qu'il va voyager et parvenir au but. Ainsi en est-il de la Sainte Famille. Les images de la lumière ou de l'obscurité reviennent souvent pour éclairer les textes, depuis l'aurore jusqu'au couchant. Voici pour l'aurore l'homélie du 13 décembre 1964. Oui, le Messie est proche. La clarté d'aurore se lève, cette clarté rose qui annonce que le soleil va se lever dans quelques instants avec sa lumière triomphante. C'est un grand astre qui se lève. Et pour le recevoir, préparez les voies, purifiez-vous. Et le couchant ? La grisaille de la vie ordinaire enveloppe tout. Il semble que toute la lumière est sombrée dans l'obscurité. Comme le soleil couchant semble s'ensevelir dans l'océan et dans les nuages à l'horizon. Élisabeth reconnaît la mère de son Seigneur. Luc 1, 43. Et voici le commentaire du Père. De même que devant le foyer, nous reconnaissons les traits du visage des personnes qui sont autour de la flamme. De juillet 62. C'était la fête de la visitation. Oui, c'est ça. Dans d'autres cas, le Père situe longuement les lieux, explique les circonstances historiques ou géographiques et fait ainsi se lever dans l'imagination des auditeurs une civilisation. La mention de Jéricho l'incite à préciser longuement les routes qui mènent à Jérusalem. Celle de Cana, la mention de Cana, a rappelé la situation géographique de Béthanie et de la Galilée, la douceur du climat, l'abondance des fruits autour du lac de Tibériade. Et les pamplemousses en particulier, qu'il a découvert à Magdala, semblent lui avoir laissé un très doux souvenir, puisque nous les retrouvons au moins dans 4 homélies. Il montre aussi le dénuement de la région où a lieu la multiplication des pains. Voici ce qu'il dit le 1er avril 1962. Aucune armée n'a jamais osé traverser ce désert de Transjordanie qui s'étend jusqu'en Mésopotamie, tellement il est dénué de tout. C'est là que Jésus avait entraîné les foules. Ces gens n'avaient rien à manger. On ne trouvait là que des pierres, quelques ronces et à certains endroits des marécages. Actuellement, ce désert est traversé par une route et par les pipelines qui amènent le pétrole de Bagdad à Kaïfa. Il justifie aussi les débuts de la vie publique de Jésus par la situation et l'histoire de Capharnaüm, bâtie par les Romains. Et dans l'homélie du 20 janvier 1963, nous lisons, on entendit, « La Galilée, c'est un plateau. Il y a des bergers. Mais la ville, la foule, c'est Capharnaüm. C'est la rive du lac de Tibériade. Ce lac se trouve à 250 mètres au-dessous du niveau de la mer. » C'était l'homélie, hein, c'est pendant la messe. « Ces rives sont très fertiles et la végétation est un peu tropicale. On trouve des bananiers, des pamplemousses. Ce climat et le lac lui-même attiraient les gens fortunés et en plus le gouvernement se trouvait là, avec une garnison de soldats. Nous y verrons des officiers du roi de Galilée ainsi que des Romains. C'est donc là que se trouve la masse des gens. » Et c'est vers cette masse que notre Seigneur ira. Ce ne sera pas pour jouir des douceurs du climat ou de la richesse de la végétation. C'est pour trouver les gens qu'il va prêcher sur les bords du lac. Marc 16, 1, 4 lui inspire ce développement, rappelant aux fidèles l'enracinement de la passion dans la Pâque juive. C'est le 2 avril 1961. Dès le soir du sabbat, dès que la loi le permet, elles s'en vont chez les marchands trouver tout ce qui est nécessaire pour l'embaumement du corps de Jésus, qui n'a été que provisoire. Il y a tout un art de l'embaumement. Elles le connaissent et elles achètent donc tout ce qui est nécessaire. Elles ont leurs provisions et elles attendent impatiemment l'aurore qui va leur permettre de repartir vers le sépulcre. Elles sont prêtes et dès que l'aurore se lève, immédiatement, ces saintes femmes s'en vont vers le tombeau. Il y a là Marie-Madeleine, l'autre Marie, Salomé. Elles partent toutes ensemble, s'encourageant l'une l'autre. L'insistance de Matthieu sur le cadre temporel, le « elle se disait », permettent aux prédicateurs d'imaginer les réactions psychologiques des femmes. Enfin, pour mieux expliquer l'intérêt de certaines notations bibliques, il les compare au monde présent. De même que les spécialistes peuvent découvrir des nappes souterraines de métaux précieux ou de pétrole par certaines émanations, de même, parfois, les prophètes perçoivent les émanations de ce dessein de Dieu qui s'élabore dans la vie éternelle, un rayon d'espérance qui monte. C'est l'homélie du 24 décembre 1959. Nous le voyons, le Père sollicite bien souvent l'imagination pour faire entrer son auditoire dans le texte biblique, les rendre présents l'un à l'autre. Il met pourtant en garde. Il ne s'agit pas de bâtir un roman construit par notre imagination. Il le précise dans l'homélie du 19 janvier 1960. Mais il s'agit de mettre toutes les richesses de notre humanité, tous les dons de Dieu, au service d'une meilleure connaissance du Christ, en vue d'une plus parfaite connaturalité. Et, pardonnez-moi cette digression, mais si Dieu nous a donné l'imagination, c'est qu'il pensait que c'était bon. Nous avons cité « Je veux voir Dieu » en introduction. Nous conclurons avec les lignes qui suivent immédiatement ce que nous avons lu au début, qui résument l'importance, la relativité et le but de l'imagination. Une étude purement spéculative des plus beaux traités sur la personne du Christ, son histoire et sa vie ne sauraient suffire, on le devine, pour acquérir cette science vivante et profonde du Christ. Il y faut le souci constant, l'inlassable persévérance, la pénétration particulière de l'amour qui s'intéresse aux moindres détails, relève paroles et gestes sans importance apparente pour les utiliser comme des indices révélateurs, précise ainsi chaque jour les traits déjà connus de la physionomie aimée, découvrant de nouvelles richesses et pénétrant en une plus profonde intimité. Je vous remercie.
Vraiment un très grand merci à Anne d'être venu exprès pour nous partager ce travail que vous faites avec vos compétences et pour ainsi aviver notre imagination à la suite du Père Marie-Eugène et la mettre au service de l'amour du Christ. C'est vrai que dans un temps où l'image a tant d'importance, mais on en parlait tout à l'heure, souvent d'une manière très passive, eh bien, nous sommes émerveillés de voir comment le Père Marie-Eugène nous aide à lire l'Écriture avec notre imagination pour la mettre donc au service de l'amour. Et donc c'est ce que nous proposons à tous ceux qui le souhaitent de vivre maintenant en continuant à écouter quelques textes de l'Écriture d'abord et d'homélie du Père Marie-Eugène ensuite dans la chapelle, et donc en nous mettant aussi à l'écoute du Seigneur et en le cherchant avec tout notre cœur, toute notre imagination et toute notre foi aimante. Donc nous pouvons nous rendre maintenant tout de suite vers la chapelle où nous nous retrouvons.